La petite fadette de George Sand, lu par Johan pour audiocité.net. Chapitre 35. La mère Barbeau fut bien étonnée de voir Sylvinet sans fièvre, et elle lui donna vitement à manger, dont il profita avec un peu d'appétit. Et comme il y avait 6 jours que cette fièvre ne l'avait point lâchée, et qu'il n'avait rien voulu prendre, on s'extasia beaucoup sur le savoir de la petite fadette, qui, sans l'éveiller, sans lui rien faire boire, et par la seule vertu de ses conjurations, à ce que l'on pensait, l'avait déjà mis en si bon chemin. Le soir venu, la fièvre recommença, et bien fort. Sylvinet s'assoupissait, battait la campagne en rêvassant, et, quand il s'éveillait, avait peur des gens qui étaient autour de lui. La fadette revint, et, comme le matin, resta seule avec lui pendant une petite heure, ne faisant d'autre magie que de lui tenir les mains et la tête bien doucement et de respirer fraîchement auprès de sa figure en feu. Et comme le matin, elle lui ôta le délire et la fièvre. Et quand elle se retira, recommandant toujours qu'on ne parlât point à Sylvinet de son assistance, on le trouva dormant d'un sommeil paisible, n'ayant plus la figure rouge et ne paraissant plus malade. Je ne sais où la fadette avait pris cette idée-là. Elle lui était venue par hasard et par expérience auprès de son petit frère Jeannet, qu'elle avait plus de 10 fois ramené de l'article de la mort en ne lui faisant pas d'autre remède que de le rafraîchir avec ses mains et son haleine ou le réchauffer de la même manière quand la grand fièvre le prenait en froid. Elle s'imaginait que l'amitié et la volonté d'une personne en bonne santé et l'attouchement d'une main pure et bien vivante peuvent écarter le mal quand cette personne est douée d'un certain esprit et d'une grande confiance dans la bonté de Dieu. Aussi, tout le temps qu'elle imposait les mains, disait-elle en son âme de belles prières au bon Dieu. Et ce qu'elle avait fait pour son petit frère, ce qu'elle faisait maintenant pour le frère de Landry, elle n'eût voulu l'essayer sur aucune autre personne qui lui eût été moins chère et à qui elle n'eût point porté un si grand intérêt. Car elle pensait que la première vertu de ce remède-là, c'était la forte amitié que l'on offrait dans son cœur au malade, sans laquelle Dieu ne vous donnait aucun pouvoir sur son mal. Et lorsque la petite fadette charmait ainsi la fièvre de Sylvinet, elle disait à Dieu dans sa prière ce qu'elle lui avait dit lorsqu'elle charmait la fièvre de son frère. « Mon bon Dieu, faites que ma santé passe de mon corps dans ce corps souffrant. » Et comme le doux Jésus vous a offert sa vie pour racheter l'âme de tous les humains, si telle est votre volonté de m'ôter ma vie pour la donner à ce malade, prenez-la, je vous la rends de bon cœur, en échange de sa guérison que je vous demande. » La petite fadette avait bien songé à essayer la vertu de cette prière auprès du lit de mort de sa grand-mère. Mais elle ne l'avait osé, parce qu'il lui avait semblé que la vie de l'âme et du corps s'éteignait dans cette vieille femme, par l'effet de l'âge et de la loi de nature qui est la propre volonté de Dieu. Et la petite fadette, qui mettait, comme on le voit, plus de religion que de diablerie dans ses charmes, eut craint de lui déplaire en lui demandant une chose qu'il n'avait point coutume d'accorder sans miracle aux autres chrétiens. Que le remède fût inutile ou souverain de lui-même, il est bien sûr qu'en 3 jours, elle débarrassa Sylvinet de sa fièvre et qu'il n'eût jamais su comment, si, en s'éveillant un peu vite, la dernière fois qu'elle vint, il ne l'eût vu pencher sur lui et lui retirant tout doucement ses mains. D'abord, il crut que c'était une apparition, et il referma les yeux pour ne la point voir. Mais, ayant demandé ensuite à sa mère si la fadette ne l'avait point tâtée à la tête et au pouls, ou si c'était un rêve qu'il avait fait, la mère Barbeau, à qui son mari avait touché enfin quelque chose de ses projets et qui souhaitait voir Sylvinet revenir de son déplaisir envers elle, lui répondit qu'elle était venue en effet 3 jours durant, matin et soir, et qu'elle lui avait merveilleusement coupé sa fièvre en le soignant en secret. Sylvinet parut n'en rien croire. Il dit que sa fièvre s'en était allée d'elle-même et que les paroles et secrets de la fadette n'étaient que vanités et folies. Il resta bien tranquille et bien portant pendant quelques jours, et le père Barbeau crut devoir en profiter pour lui dire quelque chose de la possibilité du mariage de son frère, sans toutefois nommer la personne qu'il avait en vue. Vous n'avez pas besoin de me cacher le nom de la future que vous lui destinez, répondit Sylvinet. Je sais bien, moi, que c'est cette fadette qui vous a tous charmés. En effet, l'enquête secrète du père Barbeau avait été si favorable à la petite fadette qu'il n'avait plus d'hésitation et qu'il souhaitait grandement pouvoir rappeler Landry. Il ne craignait plus que la jalousie du Besson, et il s'efforçait à le guérir de ce travers en lui disant que son frère ne serait jamais heureux sans la petite fadette. Sur quoi Sylvinet répondait « Faites donc, car il faut que mon frère soit heureux. » Mais on n'osait pas encore, parce que Sylvinet retombait dans sa fièvre aussitôt qu'il paraissait avoir agréé la chose. Chapitre 36. Cependant, le père Barbeau avait peur que la petite fadette ne lui gardât rancune de ses injustices passées et que, s'étant consolée de l'absence de Landry, elle ne songea à quelque autre. Lorsqu'elle était venue à la Bessonnière pour soigner Sylvinet, il avait essayé de lui parler de Landry, mais elle avait fait semblant de ne pas entendre et il se voyait bien embarrassé. Enfin, un matin, il prit sa résolution et alla trouver la petite fadette. « Fanchon Fadet, lui dit-il, je viens vous faire une question à laquelle je vous prie de me donner une réponse en tout honneur et vérité. Avant le décès de votre grand-mère, aviez-vous idée des grands biens qu'elle devait vous laisser ?»« Oui, père Barbeau, répondit la petite fadette, j'en avais quelque idée, parce que je l'avais vue souvent compter de l'or et de l'argent, et que je n'avais jamais vu sortir de la maison que des gros sous, et aussi parce qu'elle m'avait dit souvent, quand les autres jeunesses se moquaient de mes guenilles, « Ne t'inquiète pas de ça, petite, tu seras plus riche qu'elle toute, et un jour arrivera où tu pourras être habillée de soie depuis les pieds jusqu'à la tête, si tel est ton bon plaisir. » Et alors, reprit le père Barbeau, aviez-vous fait savoir la chose à Landry, et ne serait-ce point à cause de votre argent que mon fils faisait semblant d'être épris de vous ? Pour cela, père Barbeau, répondit la petite fadette, ayant toujours eu l'idée d'être aimée pour mes beaux yeux, qui sont la seule chose qu'on ne m'ait jamais refusée. Je n'étais pas assez sotte pour aller dire à Landry que mes beaux yeux étaient dans des sacs de peau d'anguille. Et pourtant j'aurais pu le lui dire sans danger pour moi, car Landry m'aimait si honnêtement et d'un si grand cœur que jamais il ne s'est inquiété de savoir si j'étais riche ou misérable. Et depuis que votre mère grand est décédée, ma chère Fanchon, reprit le père Barbeau, pouvez-vous me donner votre parole d'honneur que Landry n'a point été informé par vous, ou par quelque autre, de ce qui en est ? Je vous la donne, dit la fadette. Aussi vrai que j'aime Dieu, vous êtes, après moi, la seule personne au monde qui ait connaissance de cette chose-là. Et pour ce qui est de l'amour de Landry, pensez-vous, Fanchon, qu'il voulait conserver ? Et avez-vous reçu, depuis le décès de votre grand-mère, quelque marque qu'il ne vous ait point été infidèle ? J'ai reçu la meilleure marque là-dessus, répondit-elle, car je vous confesse qu'il est venu me voir 3 jours après le décès, qu'il m'a juré qu'il mourrait de chagrin ou qu'il mourrait pour sa femme. Et vous, fadette, que lui répondiez-vous ? Cela, père Barbeau, je ne serai pas obligé de vous le dire. Mais je le ferai pour vous contenter. Je lui répondais que nous avions encore le temps de songer au mariage et que je ne me déciderais pas volontiers pour un garçon qui me ferait la cour contre le gré de ses parents. Et comme la petite fadette disait cela d'un ton assez fier et dégagé, le père Barbeau en fut inquiet. « Je n'ai pas le droit de vous interroger, Fanchon Fadet, dit-il, et je ne sais point si vous avez l'intention de rendre mon fils heureux ou malheureux pour toute sa vie. Mais je sais qu'il vous aime terriblement, et si j'étais en votre lieu, avec l'idée que vous avez d'être aimé pour vous-même, je me dirais « Landry Barbeau m'a aimé quand je portais des guenilles, quand tout le monde me repoussait, et quand ses parents eux-mêmes avaient le tort de lui en faire un grand péché. Il m'a trouvée belle quand tout le monde me déniait l'espérance de le devenir. Il m'a aimée en dépit des peines que cet amour-là lui suscitait. Il m'a aimée absente comme présente. Enfin, il m'a si bien aimée que je ne peux pas me méfier de lui et que je n'en veux jamais avoir d'autre pour mari. » Il y a longtemps que je me suis dit tout cela, père Barbeau, répondit la petite fadette. Mais je vous le répète, j'aurais la plus grande répugnance à entrer dans une famille qui rougirait de moi et ne céderait que par faiblesse et compassion. si ce n'est que cela qui vous retient, décidez-vous, Fanchon, reprit le père Barbeau, car la famille de Landry vous estime et vous désire. Ne croyez point qu'elle a changé parce que vous êtes riche. Ce n'est point la pauvreté qui nous répugnait de vous, mais les mauvais propos tenus sur votre compte. S'ils avaient été bien fondés, jamais, mon Landry eût-il dû en mourir, je n'aurais consenti à vous appeler ma bru. Mais j'ai voulu avoir raison de tous ces propos-là. J'ai été à Châteaumeillan tout exprès. Je me suis enquis de la moindre chose dans ce pays-là et dans le nôtre. Et maintenant, je reconnais qu'on m'avait menti et que vous êtes une personne sage et honnête, ainsi que Landry l'affirmait avec tant de feu. Par ainsi, Fanchon Fadet, je viens vous demander d'épouser mon fils, et si vous dites oui, il sera ici dans 8 jours. Cette ouverture, qu'elle avait bien prévue, rendit la petite Fadette bien contente. Mais ne voulant pas le laisser voir, parce qu'elle voulait à tout jamais être respectée de sa future famille, elle n'y répondit qu'avec ménagement. Et alors le père Barbeau lui dit « Je vois, ma fille, qu'il vous reste quelque chose sur le cœur contre moi et contre les miens. N'exigez pas qu'un homme d'âge vous fasse des excuses. Contentez-vous d'une bonne parole. Et quand je vous dis que vous serez aimé et estimé chez nous, rapportez-vous-en au père Barbeau, qui n'a encore trompé personne. Allons, voulez-vous donner le baiser de paix au tuteur que vous vous étiez choisi ou au père qui veut vous adopter ?» La petite Fadette ne put se défendre plus longtemps. Elle jeta ses deux bras au cou du père Barbeau et son vieux cœur en fut tout réjoui. Chapitre 37. Leurs conventions furent bientôt faites. Le mariage aurait lieu sitôt la fin du deuil de Fanchon. Il ne s'agissait plus que de faire revenir Landry. Mais quand la mère Barbeau vint voir Fanchon le soir même pour l'embrasser et lui donner sa bénédiction, elle objecta qu'à la nouvelle du prochain mariage de son frère, Sylvinet était retombé malade et elle demandait qu'on attendît encore quelques jours pour le guérir ou le consoler. « Vous avez fait une faute, mère Barbeau, dit la petite Fadette, en confirmant à Sylvinet qu'il n'avait point rêvé en me voyant à son côté au sortir de sa fièvre. À présent, son idée contrariera la mienne, et je n'aurai plus la même vertu pour le guérir pendant son sommeil. Il se peut même qu'il me repousse et que ma présence empire son mal. « Je ne le pense point, répondit la mère Barbeau, car tantôt, se sentant mal, il s'est couché en disant « « Où est donc cette Fadette ? M'est avis qu'elle m'avait soulagée. Est-ce qu'elle ne reviendra plus ?» Et je lui ai dit que je venais vous chercher, dont il a paru content et même impatient. « J'y vais, répondit la Fadette. Seulement, cette fois, il faudra que je m'y prenne autrement, car, je vous le dis, ce qui me réussissait avec lui lorsqu'il ne me savait point là, n'opérera plus. « Et ne prenez-vous donc avec vous ni drogue ni remède ?» dit la mère Barbeau. « Non, dit la Fadette, son corps n'est pas bien malade, c'est à son esprit que j'ai affaire. Je vais essayer d'y faire entrer le mien, mais je ne vous promets point de réussir. Ce que je puis vous promettre, c'est d'attendre patiemment le retour de Landry et de ne pas vous demander de l'avenir avant que nous n'ayons tout fait pour ramener son frère à la santé. Landry me l'a si fortement recommandé que je sais qu'il m'approuvera d'avoir retardé son retour et son contentement. » Quand Sylvinet vit la petite Fadette auprès de son lit, il parut mécontent et ne lui voulut point répondre comment il se trouvait. Elle voulait lui toucher le pouls, mais il retira sa main et tourna sa figure du côté de la ruelle du lit. Alors la Fadette fit signe qu'on la laissa seule avec lui, et quand tout le monde fut sorti, elle éteignit la lampe et ne laissa entrer dans la chambre que la clarté de la lune, qui était toute pleine dans ce moment-là. Et puis elle revint auprès de Sylvinet, et lui dit d'un ton de commandement auquel il obéit comme un enfant. Sylvinet, donnez-moi vos deux mains dans les miennes et répondez-moi selon la vérité, car je ne me suis pas dérangée pour de l'argent, et si j'ai pris la peine de venir vous soigner, ce n'est pas pour être mal reçue et mal remerciée de vous. Faites donc attention à ce que je vais vous demander et à ce que vous allez me dire, car il ne vous serait pas possible de me tromper. Demandez-moi ce que vous jugerez à propos, Fadette, répondit le Besson, tout essauti de s'entendre parler si sévèrement par cette moqueuse de petite Fadette, à laquelle, au temps passé, il avait si souvent répondu à coups de pierre. « Sylvain Barbeau, reprit-elle, il paraît que vous souhaitez mourir. » Sylvain trébucha un peu dans son esprit avant de répondre. Et comme la fadette lui serrait la main un peu fort et lui faisait sentir sa grande volonté, il dit avec beaucoup de confusion. « Ne serait-ce pas ce qui pourrait m'arriver de plus heureux, de mourir, lorsque je vois bien que je suis une peine et un embarras à ma famille, par ma mauvaise santé et par... »« Dites tout, Sylvain, il ne me faut rien sceller. »« Et par mon esprit soucieux, que je ne puis changer, » reprit le Besson tout accablé. « Et aussi par votre mauvais cœur, » dit la fadette d'un ton si dur qu'il en eut de la colère et de la peur encore plus. Chapitre 38. Pourquoi m'accusez-vous d'avoir un mauvais cœur, dit-il. Vous me dites des injures quand vous voyez que je n'ai pas la force de me défendre. Je vous dis vos vérités, Sylvain, reprit la fadette, et je vais vous en dire bien d'autres. Je n'ai aucune pitié de votre maladie, parce que je m'y connais assez pour voir qu'elle n'est pas bien sérieuse et que, s'il y a un danger pour vous, c'est celui de devenir fou, à quoi vous tentez de votre mieux, sans savoir où vous mène votre malice et votre faiblesse d'esprit. « Reprochez-moi ma faiblesse d'esprit, » dit Sylvinet, « mais quant à ma malice, c'est un reproche que je ne crois point mériter. » « N'essayez pas de vous défendre, » répondit la petite fadette, « je vous connais un peu mieux que vous ne vous connaissez vous-même, Sylvain, et je vous dis que la faiblesse engendre la fausseté, et c'est pour cela que vous êtes égoïste et ingrat. » « Si vous pensez si mal de moi, Fanchon Fadet, c'est sans doute que mon frère Landry m'a bien maltraité dans ses paroles et qu'il vous a fait voir le peu d'amitié qu'il me portait, car si vous me connaissez ou croyez me connaître, ce ne peut être que par lui. » « Voilà où je vous attendais, Sylvain. Je savais bien que vous ne diriez pas trois paroles sans vous plaindre de votre Besson et sans l'accuser, car l'amitié que vous avez pour lui, pour être trop folle et désordonnée, tant à se changer en dépit et en rancune. À cela, je connais que vous êtes à moitié fou et que vous n'êtes point bon. Eh bien, je vous dis, moi, que Landry vous aime 10 000 fois plus que vous ne l'aimez, à preuve qu'il ne vous reproche jamais rien, quelque chose que vous lui fassiez souffrir, tandis que vous lui reprochez toute chose alors qu'il ne fait que vous céder et vous servir. Comment voulez-vous que je ne voie pas la différence entre lui et vous ? Aussi, plus Landry m'a dit de bien de vous, plus de mal j'en ai pensé, parce que j'ai considéré qu'un frère si bon ne pouvait être méconnu que par une âme injuste. Aussi, vous me haïssez, fadette. Je ne m'étais point abusée là-dessus, et je savais bien que vous m'ôtiez l'amour de mon frère en lui disant du mal de moi. Je vous attendais encore là, maître Sylvain, et je suis contente que vous me preniez enfin à partie. Eh bien, je vais vous répondre que vous êtes un méchant cœur et un enfant du mensonge, puisque vous méconnaissez et insultez une personne qui vous a toujours servi et défendu dans son cœur, connaissant pourtant bien que vous lui étiez contraire. Une personne qui s'est 100 fois privée du plus grand et du seul plaisir qu'elle eût au monde, le plaisir de voir Landry et de rester avec lui, pour envoyer Landry auprès de vous et pour vous donner le bonheur qu'elle se retirait. Je ne vous devais pourtant rien. Vous avez toujours été mon ennemi. Et du plus loin que je me souvienne, je n'ai jamais rencontré un enfant si dur et si hautain que vous l'étiez avec moi. J'aurais pu souhaiter d'en tirer vengeance, et l'occasion ne m'a pas manqué. Si je ne l'ai point fait, et si je vous ai rendu à votre insu le bien pour le mal, c'est que j'ai une grande idée de ce qu'une âme chrétienne doit pardonner à son prochain pour plaire à Dieu. Mais quand je vous parle de Dieu, sans doute vous ne m'entendez guère, car vous êtes son ennemi et celui de votre salut. Je me laisse dire par vous bien des choses, fadette, mais celle-ci est trop forte, et vous m'accusez d'être un païen. Est-ce que vous ne m'avez pas dit tout à l'heure que vous souhaitiez la mort, et croyez-vous que ce soit là une idée chrétienne ? Je n'ai pas dit cela, fadette. J'ai dit que... » Et Sylvinet s'arrêta, tout effrayé, en songeant à ce qu'il avait dit, et qui lui paraissait impie devant les remontrances de la fadette. Mais elle ne le laissa point tranquille. Et, continuant à le tancer, « Il se peut, dit-elle, que votre parole fût plus mauvaise que votre idée, car j'ai bien dans la mienne que vous ne souhaitez point tant la mort qu'il vous plaît de le laisser croire, afin de rester maître dans votre famille, de tourmenter votre pauvre mère qui s'en désole, et votre Besson, qui est assez simple pour croire que vous voulez mettre fin à vos jours. Moi, je ne suis pas votre dupe, Sylvain. Je crois que vous craignez la mort autant et même plus qu'un autre. » et que vous vous faites un jeu de l'apport que vous donnez à ceux qui vous chérissent. Cela vous plaît de voir que les résolutions les plus sages et les plus nécessaires cèdent toujours devant la menace que vous faites de quitter la vie. Et en effet, c'est fort commode et fort doux de n'avoir qu'un mot à dire pour faire tout plier autour de soi. De cette manière, vous êtes le maître à tous ici. Mais comme cela est contre nature et que vous y arrivez par des moyens que Dieu réprouve, Dieu vous châtie, vous rendant encore plus malheureux que vous ne le seriez en obéissant au lieu de commander. Et voilà que vous vous ennuyez d'une vie qu'on vous a faite trop douce. Je vais vous dire ce qui vous a manqué pour être un bon et sage garçon, Sylvain. C'est d'avoir eu des parents bien rudes, beaucoup de misère, pas de pain tous les jours et des coups bien souvent. Si vous aviez été élevé à la même école que moi et mon frère Jeannet, au lieu d'être ingrat, vous seriez reconnaissant de la moindre chose. Tenez, Sylvain, ne vous retranchez pas sur votre bessonnerie. Je sais qu'on a beaucoup trop dit autour de vous que cette amitié bessonnière était une loi de nature qui devait vous faire mourir si on la contrariait. Et vous avez cru obéir à votre sort en portant cette amitié à l'excès. Mais Dieu n'est pas si injuste que de nous marquer pour un mauvais sort dans le ventre de nos mères. Il n'est pas si méchant que de nous donner des idées que nous ne pourrions jamais surmonter. Et vous lui faites injure, comme un superstitieux que vous êtes, en croyant qu'il y a dans le sang de votre corps plus de force et de mauvaise destinée qu'il n'y a dans votre esprit de résistance et de raison. Jamais, à moins que vous ne soyez fou, je ne croirais que vous ne pourriez pas combattre votre jalousie si vous le vouliez. Mais vous ne le voulez pas, parce qu'on a trop caressé le vice de votre âme, et que vous estimez moins votre devoir que votre fantaisie. » Sylvine ne répondit rien, et laissa la fadette le réprimander bien longtemps encore, sans lui faire grâce d'aucun blâme. Il sentait qu'elle avait raison au fond, et qu'elle ne manquait d'indulgence que sur un point. C'est qu'elle avait l'air de croire qu'il n'avait jamais combattu son mal, et qu'il s'était bien rendu compte de son égoïsme, tandis qu'il avait été égoïste sans le vouloir et sans le savoir. Cela le peinait et l'humiliait beaucoup, et il eût souhaité lui donner une meilleure idée de sa conscience. Quant à elle, elle savait bien qu'elle exagérait, et elle le faisait à dessein de lui tarabuster beaucoup l'esprit avant de le prendre par la douceur et la consolation. Elle se forçait donc pour lui parler durement et pour lui paraître en colère, tandis que, dans son cœur, elle sentait tant de pitié et d'amitié pour lui qu'elle était malade de sa feinte, et qu'elle le quitta plus fatiguée qu'elle ne le laissait. Chapitre 39. La vérité est que Sylvinet n'était pas moitié si malade qu'il le paraissait et qu'il se plaisait à le croire. La petite fadette, en lui touchant le pouls, avait reconnu d'abord que la fièvre n'était pas forte et que, s'il avait un peu de délire, c'est que son esprit était plus malade et plus affaibli que son corps. Elle crut donc devoir le prendre par l'esprit en lui donnant d'elle une grande crainte, et dès le jour elle retourna auprès de lui. Il n'avait guère dormi, mais il était tranquille et comme abattu. Sitôt qu'il la vit, il lui tendit sa main au lieu de la lui retirer comme il avait fait la veille. « Pourquoi m'offrez-vous votre main, Sylvain ? » lui dit-elle. « Est-ce pour que j'examine votre fièvre ? Je vois bien à votre figure que vous ne l'avez plus. » Sylvinet, honteux d'avoir à retirer sa main qu'elle n'avait point voulu toucher, lui dit « C'était pour vous dire bonjour, fadette, et pour vous remercier de tant de peine que vous prenez pour moi. « En ce cas, j'accepte votre bonjour, » dit-elle, en lui prenant la main et en la gardant dans la sienne, « car jamais je ne repousse une honnêteté, et je ne vous crois point assez faux pour me marquer de l'intérêt si vous n'en sentiez pas un peu pour moi. » Sylvain ressentit un grand bien, quoique tout éveillé, d'avoir sa main dans celle de la fadette, et lui dit d'un ton très doux « Vous m'avez pourtant bien malmené hier au soir, Fanchon, et je ne sais comment il se fait que je ne vous en veux point. Je vous trouve même bien bonne de venir me voir, après tout ce que vous avez à me reprocher. » La fadette s'assit auprès de son lit et lui parla tout autrement qu'elle n'avait fait la veille. Elle y mit tant de bonté, tant de douceur et de tendresse, que Sylvain en éprouva un soulagement et un plaisir d'autant plus grand qu'il l'avait jugé plus courroucé contre lui. Il pleura beaucoup, se confessa de tous ses torts et lui demanda même son pardon et son amitié avec tant d'esprit et d'honnêteté qu'elle reconnut bien qu'il avait le cœur meilleur que la tête. Elle le laissa s'épancher, le grondant encore quelquefois, et quand elle voulait quitter sa main, il la retenait, parce qu'il lui semblait que cette main le guérissait de sa maladie et de son chagrin en même temps. Quand elle le vit au point où elle le voulait, elle lui dit « Je vais sortir et vous vous lèverez, Sylvain, car vous n'avez plus la fièvre, et il ne faut pas rester à vous dorloter, tandis que votre mère se fatigue à vous servir et perd son temps à vous tenir compagnie. Vous mangerez ensuite ce que votre mère vous présentera de ma part. C'est de la viande, et je sais que vous vous en dites dégoûté, et que vous ne vivez plus que de mauvais herbages. Mais il n'importe, vous vous forcerez, et quand même vous y auriez de la répugnance, vous n'en ferez rien paraître. Cela fera plaisir à votre mère de vous voir manger du solide. Et quant à vous, la répugnance que vous aurez surmontée et cachée sera moindre la prochaine fois et nulle la troisième. Vous verrez si je me trompe. Adieu donc, et qu'on ne me fasse pas revenir de sitôt pour vous, car je sais que vous ne serez plus malade si vous ne voulez plus l'être. Vous ne reviendrez donc pas ce soir, dit Sylvinet. J'aurais cru que vous reviendriez. Je ne suis pas médecin pour de l'argent, Sylvain, et j'ai autre chose à faire que de vous soigner quand vous n'êtes pas malade. Vous avez raison, Fadette, mais le désir de vous voir, vous croyez que c'était encore de l'égoïsme? C'était autre chose. J'avais du soulagement à causer avec vous. Eh bien, vous n'êtes pas impotent, et vous connaissez ma demeurance. Vous n'ignorez pas que je vais être votre sœur par le mariage, comme je le suis déjà par l'amitié. Vous pouvez donc bien venir causer avec moi, sans qu'il y ait à cela rien de répréhensible. J'irai, puisque vous l'agréez, dit Sylvinet. À revoir donc, Fadette. Je vais me lever, quoique j'aie un grand mal de tête, pour n'avoir point dormi et m'être bien désolée toute la nuit. Je veux bien vous ôter encore ce mal de tête, dit-elle. Mais songez que ce sera le dernier, et que je vous commande de bien dormir la prochaine nuit. » Elle lui imposa la main sur le front, et au bout de 5 minutes, il se trouva si rafraîchi et si consolé qu'il ne sentait plus aucun mal. « Je vois bien, lui dit-il, que j'avais tort de m'y refuser, Fadette, car vous êtes grande remégeuse, et vous savez charmer la maladie. Tous les autres m'ont fait du mal par leur drogue, et vous, rien que de me toucher, vous me guérissez. » Je pense que si je pouvais toujours être auprès de vous, vous m'empêcheriez d'être jamais malade ou fautif. Mais dites-moi, Fadette, n'êtes-vous plus fâchée contre moi? Et voulez-vous compter sur la parole que je vous ai donnée de me soumettre à vous entièrement? J'y compte, dit-elle, et à moins que vous ne changiez d'idée, je vous aimerais comme si vous étiez mon baissant. Si vous pensiez ce que vous me dites là, Fanchon, vous me diriez tu, et non pas vous. Car ce n'est pas la coutume des Bessons de se parler avec tant de cérémonie. Allons, Sylvain, lève-toi, mange, cause, promène-toi et dors, dit-elle en se levant. Voilà mon commandement pour aujourd'hui. Demain, tu travailleras. Et j'irai te voir, dit Sylvinet. Soit, dit-elle. Et elle s'en alla en le regardant d'un air d'amitié et de pardon qui lui donna soudainement la force et l'envie de quitter son lit de misère et de fainéantise. Chapitre 40. La mère Barbeau ne pouvait assez s'émerveiller de l'habileté de la petite Fadette. Et le soir, elle disait à son homme « Voilà Sylvinet qui se porte mieux qu'il n'a fait depuis 6 mois. Il a mangé de tout ce qu'on lui a présenté aujourd'hui, sans faire ses grimaces accoutumées. Et ce qu'il y a de plus imaginant, c'est qu'il parle de la petite Fadette comme du bon Dieu. Il n'y a pas de bien qu'il ne m'en ait dit. Et il souhaite grandement le retour et le mariage de son frère. C'est comme un miracle, et je ne sais pas si je dors ou si je veille. Miracle ou non, dit le père Barbeau, cette fille-là a un grand esprit, et je crois bien que ça doit porter bonheur de la voir dans une famille. Sylvinet partit 3 jours après pour aller quérir son frère à Arton. Il avait demandé à son père et à la Fadette, comme une grande récompense, de pouvoir être le premier à lui annoncer son bonheur. « Tous les bonheurs me viennent donc à la fois, » dit Landry en se pâmant de joie dans ses bras, « puisque c'est toi qui viens me chercher et que tu parais aussi content que moi-même. » Ils revinrent ensemble sans s'amuser en chemin, comme on peut croire, et il n'y eut pas de gens plus heureux que les gens de la Bessonnière quand ils se virent tous attablés pour souper, avec la petite Fadette et le petit Jeannet au milieu d'eux. La vie leur fut bien douce à tous pendant une demi-année. Car la jeune Nanette fut accordée à Cadet Caillot, qui était le meilleur ami de Landry après ceux de sa famille. et il fut arrêté que les deux noces se feraient en même temps. Sylvinet avait pris pour la fadette une amitié si grande qu'il ne faisait rien sans la consulter, et elle avait sur lui tant d'empire qu'il semblait la regarder comme sa sœur. Il n'était plus malade, et de jalousie, il n'en était plus question. Si quelquefois encore il paraissait triste et en train de rêvasser, la fadette le réprimandait, et tout aussitôt, il devenait souriant et communicatif. Les deux mariages eurent lieu le même jour et à la même messe, et comme le moyen ne manquait pas, on fit de si belles noces que le père Caillot, qui, de sa vie, n'avait perdu son sang-froid, fit mine d'être un peu gris le troisième jour. Rien ne corrompit la joie de Landry et de toute la famille, et mêmement, on pourrait dire de tout le pays, car les deux familles, qui étaient riches, et la petite fadette, qui l'était autant que les Barbeaux et les Caillot tout ensemble, firent à tout le monde de grandes honnêtetés et de grandes charités. Fanchon avait le cœur trop bon pour ne pas souhaiter de rendre le bien pour le mal à tous ceux qui l'avaient mal jugé. Mêmement, par la suite, quand Landry eut acheté un beau bien qu'il gouvernait on ne peut mieux par son savoir et celui de sa femme, elle y fit bâtir une jolie maison, à l'effet d'y recueillir tous les enfants malheureux de la commune, durant 4 heures par chaque jour de la semaine. Et elle prenait elle-même la peine, avec son frère Jeannet, de les instruire, de leur enseigner la vraie religion, et même d'assister les plus nécessiteux dans leur misère. Elle se souvenait d'avoir été une enfant malheureuse et délaissée, et les beaux enfants qu'elle mit au monde furent stylés de bonheur à être affables et compatissants pour ceux qui n'étaient ni riches ni choyés. Mais qu'advint-il de Sylvinet au milieu du bonheur de sa famille? Une chose que personne ne put comprendre et qui donna grandement à songer au père Barbeau. Un mois environ après le mariage de son frère et de sa sœur, comme son père l'engageait aussi à chercher et à prendre femme, il répondit qu'il ne se sentait aucun goût pour le mariage, mais qu'il avait, depuis quelque temps, une idée qu'il voulait contenter, laquelle était d'être soldat et de s'engager. Comme les mâles ne sont pas trop nombreux dans les familles de chez nous, et que la terre n'a pas plus de bras qu'il n'en faut, on ne voit quasiment jamais d'engagement volontaire. Aussi chacun s'étonna grandement de cette résolution, de laquelle Sylvinet ne pouvait donner aucune autre raison, sinon sa fantaisie et un goût militaire que personne ne lui avait jamais connu. Tout ce que surent dire ses pères et mères, frères et sœurs, et Landry lui-même ne put l'en détourner, et on fut forcé d'en aviser Fanchon, qui était la meilleure tête et le meilleur conseil de la famille. Elle causa 2 grandes heures avec Sylvinet, et quand on les vit se quitter, Sylvinet avait pleuré, sa belle-sœur aussi. Mais ils avaient l'air si tranquilles et si résolus qu'il n'y eut plus d'objection à soulever lorsque Sylvinet dit qu'il persistait, et Fanchon qu'elle approuvait sa résolution et en augurait pour lui un grand bien dans la suite des temps. Comme on ne pouvait pas être bien sûr qu'elle n'eût pas là-dessus des connaissances plus grandes encore que celles qu'elle avouait, on n'osa point résister davantage, et la mère Barbeau elle-même se rendit, non sans verser beaucoup de larmes. Landry était désespéré, mais sa femme lui dit « C'est la volonté de Dieu et notre devoir à tous de laisser partir Sylvain. Crois que je sais bien ce que je te dis et ne m'en demande pas davantage. » Landry fit la conduite à son frère le plus loin qu'il put, et quand il lui rendit son paquet, qu'il avait voulu tenir jusque-là sur son épaule, il lui sembla qu'il lui donnait son propre cœur à emporter. Il revint trouver sa chère femme qui eut à le soigner, car pendant un grand mois, le chagrin le rendit véritablement malade. Quant à Sylvain, il ne le fut point et continua sa route jusqu'à la frontière, car c'était le temps des grandes belles guerres de l'empereur Napoléon. Et quoiqu'il n'eût jamais eu le moindre goût pour l'état militaire, il commanda si bien à son vouloir qu'il fut bientôt remarqué comme bon soldat, brave à la bataille, comme un homme qui ne cherche que l'occasion de se faire tuer, et pourtant doux et soumis à la discipline comme un enfant, en même temps qu'il était dur à son propre corps comme les plus anciens. Comme il avait reçu assez d'éducation pour avoir de l'avancement, il en eut bientôt, et en 10 années de temps, de fatigue, de courage et de belle conduite, il devint capitaine, et encore avec la croix par-dessus le marché. « Ah, s'il pouvait enfin revenir, dit la mère Barbeau à son mari, le soir après le jour où ils avaient reçu de lui une jolie lettre pleine d'amitié pour eux, pour Landry, pour Fanchon, et enfin pour tous les jeunes et vieux de la famille. Le voilà quasiment général, et il serait bien temps pour lui de se reposer. « Le grade qu'il a est assez joli sans l'augmenter, » dit le père Barbeau, « et cela ne fait pas moins un grand honneur à une famille de paysans. » Cette fadette avait bien prédit que la chose arriverait, reprit la mère Barbeau. « Oui, dac, elle l'avait annoncé. » « C'est égal, » dit le père. « Je ne m'expliquerai jamais comment son idée a tourné tout à coup de ce côté-là, et comment il s'est fait un pareil changement dans son humeur, lui qui était si tranquille et si ami de ses petites aises. » « Mon vieux, » dit la mère, « notre bru en sait là-dessus plus long qu'elle n'en veut dire. Mais on n'attrape pas une mère comme moi, et je crois bien que j'en sais aussi long que notre fadette. » « Il serait bien temps de me le dire, à moi, » reprit le père Barbeau. « Eh bien, » répliqua la mère Barbeau, « notre Fanchon est trop grande charmeuse, et tellement qu'elle avait charmé Sylvinet plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Quand elle vit que le charme opérait si fort, elle eût voulu le retenir ou l'amoindrir, mais elle ne le put, et notre Sylvain, voyant qu'il pensait trop à la femme de son frère, est parti par grand honneur et grande vertu, en quoi la Fanchon l'a soutenu et approuvé. Si c'est ainsi, dit le père Barbeau en se grattant l'oreille, j'ai bien peur qu'il ne se marie jamais, car la baigneuse de Clavière a dit, dans les temps, que lorsqu'il serait épris d'une femme, il ne serait plus si affolé de son frère, mais qu'il n'en aimerait jamais qu'une en sa vie, parce qu'il avait le cœur trop sensible et trop passionné.